Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. » Bonjour à tous, frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous, mais ces jours présents, ils m'inspirent beaucoup de choses. Et comme j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, ils font ressortir des choses qu'on aurait peut-être aimé qu'elles ne ressortent pas. Mais le Seigneur, il fait cela parce qu'il veut notre bien. Et il permet à ce que nos défauts de caractère se révèlent pour qu'on puisse être purifiés de nous et pour qu'on puisse les mettre de côté et les abandonner. Et en cette fin de temps précipitée que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes confrontés à nos défauts de caractère, qu'on le veuille ou pas, on y est confronté, qui que nous soyons d'ailleurs, que nous soyons croyants ou que nous ne soyons pas croyants, nous y sommes confrontés car la fournaise ardente des événements des derniers jours les font ressortir, nos défauts de caractère. Et pour nous qui professons une foi en Jésus-Christ, eh bien, cette fournaise ardente fait ressortir les scories afin que nous les voyions pour ce qu'elles sont et que nous les abandonnions, à savoir nos défauts de caractère, nos mauvaises habitudes et des péchés profondément ancrés dans notre être. Et donc, Dieu fait monter la température de cette fournaise pour pouvoir séparer ces scories et faire de nous un or pur. Plus pur, plus un or plus fin, comme il le dit autre part, que l'or d'Ophir. Et donc, vis-à-vis des choses que nous traversons aujourd'hui, on est contraint d'admettre et de réaliser et d'en revenir aux bases et de réaliser qu'il n'y a vraiment que deux esprits sur cette terre, à savoir, et c'est le but de notre étude, l'esprit d'Abel et l'esprit de Caïn. Et aujourd'hui, on veut s'attarder sur l'esprit de Caïn pour pouvoir réaliser si ce n'est pas peut-être l'esprit que nous avons nourri au plus profond de nous au fur et à mesure que les scories remontent à la surface, pour ainsi dire, et que nos défauts sont mis en lumière par les événements qui chauffent cette fournaise, qui excitent beaucoup de traits de caractère qui autrement auraient semblé inexistants, mais ne sont pas inexistants. Et le Seigneur amène ces choses à notre attention. Et donc, sans plus tarder, vous venez avec moi. Si vous avez une Bible, je vous encourage à la prendre et à lire avec moi. Pour commencer, dans Proverbes chapitre 15, Proverbes chapitre 15 et verset 8. Dans Proverbes chapitre 15, verset 8, on a un petit résumé de ce que l'on va voir par la suite dans les passages bibliques que l'on va traverser. Proverbe chapitre 15 et verset 8. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la requête des hommes droits lui est agréable. Qu'est-ce qui est en abomination à l'Éternel Dieu? Le sacrifice des méchants. Et donc maintenant, sans plus tarder, on se tourne vers notre texte, notre passage principal, celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui et à partir duquel on va arriver à des conclusions bibliques. Dans Genèse chapitre 4, en commençant par le verset 3. Genèse chapitre 4 et verset 3 à 5. Or, au bout de quelque temps, ou comme c'est écrit dans la note de marge de la Bible King James, à la fin des jours, ou autrement dit, le septième jour. Au septième jour, lorsqu'il venait pour adorer Dieu. Or, au bout de quelque temps, le jour du sabbat, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Donc vous voyez ici que Abel est venu offrir une oblation des premiers-nés de son troupeau. Donc offrir un sacrifice vivant qu'il a dû donc tuer en sacrifice à Dieu. Et Dieu a eu égard au sacrifice d'Abel, mais par contre, Dieu n'a pas eu égard, il n'a pas accepté, il n'a pas approuvé le sacrifice de Caïn, ni à son oblation. Et à cause de cela, nous voyons l'esprit de Caïn qui s'est révélé, qui s'est manifesté, qui est ressorti à la surface. Caïn s'est offensé de ce que Dieu n'a pas accepté son offrande qui était parfumée d'orgueil et de suffisance. Et ensuite, vous continuez, ou plutôt, avant de poursuivre, il y a un passage de l'esprit de prophétie que j'aimerais lire pour que vous voyez que ces conclusions que je vous déclare ici sont directement issues de l'inspiration. Et je lis ici dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 49 et au paragraphe 3, pour commencer. Les deux frères préparèrent deux autels semblables et y apportèrent leurs offrandes. Celle d'Abel, conformément à l'ordre divin, consistait en un agneau de son troupeau. Donc, Abel était venu avec aucune prétention propre à lui-même, mais en offrant une offrande conformément à l'ordre divin. Donc Dieu a dit, tu viens de cette manière, et Abel a dit, je viens de cette manière. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice. mais qu'un, en dépit des instructions reçues, nettes et précises, déposa sur son autel non pas un agneau, mais des produits de son verger. Aucun signe du ciel ne vint témoigner que son offrande était agréée. Abel le supplia de s'approcher de Dieu de la façon divinement requise, mais il ne se montra que plus obstiné à en faire à sa guise. Étant l'aîné, il jugeait qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de son frère et méprisa ses conseils. Nous voyons ici l'esprit de Caïn. Caïn était venu à offrir à Dieu sa propre production de son verger. Je continue. Caïn s'était approché de Dieu avec le murmure et l'incrédulité au cœur, à l'égard de l'expiation promise et de la nécessité des sacrifices. Donc Caïn était venu en obéissant, mais comme on va le voir, simplement partiellement. Parce qu'il avait offert non pas le sacrifice requis, mais les fruits, ses propres fruits. Son offrande n'exprimait aucun aveu de ses fautes. Comme beaucoup de nos contemporains, il trouvait que ce serait pour lui un acte de faiblesse que de suivre scrupuleusement les directions divines et d'attendre son salut uniquement de l'expiation du Sauveur promis. Il détermina de conserver son indépendance, il viendrait par ses propres mérites. Il ne s'approcherait pas de Dieu avec un agneau dont le sang se fût mêlé à son offrande. Il apporterait du fruit de son travail. Il présenta son offrande comme une faveur faite à Dieu, par laquelle il espérait obtenir l'approbation divine. Et là, vous notez bien, Caïn avait obéi, il est vrai, en érigeant son autel. Il avait obéi en apportant une offrande, mais son obéissance était incomplète. Il y manquait l'élément essentiel, l'aveu du besoin d'un rédempteur. Donc, nous avons ici l'esprit de Caïn, et l'esprit de prophétie nous dit également qu'il n'y a que deux catégories d'individus dans le monde, à savoir les Caïn et les Abel. Et ces catégories d'individus, l'esprit dont ils sont animés revient directement à celui qui animait ces deux enfants d'Adam et Ève. Et l'esprit de Caïn, c'est de venir sans l'élément essentiel, à savoir l'aveu du besoin d'un rédempteur. Et donc ces événements des derniers jours que nous traversons aujourd'hui, frères et sœurs, ça fait ressortir aussi cela. Ça fait ressortir cet esprit de Caïn, cet esprit de suffisance où nous sommes prêts à faire ce que Dieu dit, mais où nous rechignons à apporter l'élément essentiel, à savoir l'aveu de nos fautes et l'aveu de notre besoin d'un Rédempteur, de notre besoin de Jésus, de notre besoin du parfum de ses mérites, de notre besoin de sa grâce et de notre besoin d'être approuvé et reçu de Dieu dans le nom et dans les mérites seuls de Jésus-Christ. Et c'était cet élément essentiel qu'il manquait au sacrifice de Caïn. Et on continue maintenant dans notre passage. Donc, nous avions lu qu'Aïn fut fort irrité, que Dieu n'avait pas eu égard à son oblation, à Caïn, ni à son oblation. Verset 6. Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Donc voilà comment Dieu s'adresse à la personne qui est mue de l'esprit de Caïn. Il vient essayer de raisonner. Il vient plaider, comme nous le lisons aussi dans Ésaïe chapitre 1, comme c'est écrit dans la Bible en anglais, « Venez et raisonnons ensemble. » Et donc Dieu, dans son amour, il vient raisonner avec le pécheur. Il vient même raisonner avec le pécheur endurci, il vient raisonner avec le pécheur récalcitrant, il vient raisonner avec le pécheur suffisant et orgueilleux. Il vient raisonner avec ce pécheur-là parce qu'il est mort pour ce pécheur-là. Et donc il disait à ce pécheur-là, que vous et moi peut-être nous sommes et auquel peut-être nous pouvons nous identifier. Il vient dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait de mal? Pour que toi, tu me fasses cela de mal. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Je ne prends pas plaisir à ce que tu sois abattu, dit le Seigneur au pécheur. Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Donc il disait, le Seigneur disait, pourquoi est-ce que tu es abattu? N'est-ce pas parce que tu as fait le mal? Si tu fais le bien, n'auras-tu pas la joie? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois comme cela avec moi? Mais si tu ne fais pas bien, mais si tu ne veux pas écouter mes conseils, le péché est couché à la porte. Et son désir est tourné vers toi. Donc c'est Jacques chapitre 1. C'est si tu cèdes à la tentation, si tu te livres au mal et au péché, le péché il sera couché à ta porte comme couché à la porte. Le Seigneur était en train ici de donner une image, une illustration de ce que cela fait lorsqu'on nourrit le péché. Eh bien le péché est tout proche, prêt à entrer dès que nous ouvrons la porte. La porte des cinq sens, n'est-ce pas? L'ouïe, l'odorat, la bouche, les yeux, quoi que nous fassions, le péché est à la porte, si nous ne faisons pas bien. Mais là, Dieu donnait une once d'espoir, même dans cette situation d'endurcissement. Il disait, mais toi, tu dois dominer sur lui. Donc même si tu t'es plongé dans cette condition de choses, ce n'est pas sans espoir. Toi, tu dois dominer sur le péché. Et tu peux dominer sur le péché si tu viens dans les mérites et de Jésus et avec la grâce que moi, Dieu, je t'offre. Toi, tu dois dominer sur lui. Mais nous poursuivons où nous voyons le développement de l'esprit de Caïn. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel, vous avez ici le dialogue qui s'ensuit après cela, après cet événement tragique. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il répondit, « Je ne sais. Suis-je gardien de mon frère, moi ? » Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit. Tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. » Vous voyez un peu l'esprit de Caïn? Pensez qu'il aurait dit, oh, « Tu es Abel ?» Non. L'esprit de Caïn, c'est moi. C'est moi, mon problème, il est trop grand. Vous voyez? Mais attendez, parce que ça continue encore. Et on veut s'examiner ici. On veut s'examiner si je n'ai pas aussi l'esprit de Caïn en ces derniers jours. Où l'esprit de Caïn va plonger ce monde dans la destruction totale. Il continue, « Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre, et je serai caché de devant ta face, je serai vagabond et fugitif sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « C'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Et je continue en lisant, encore une fois, l'esprit de prophétie. À la page, dans Patriarches et Prophètes, à la page 51 et au paragraphe 1. Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus qui existeront sur la terre jusqu'à la fin. Donc voilà. Ce sont les deux catégories d'individus qui existeront sur la terre jusqu'à la fin. Ils représentent ces deux catégories d'individus. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu quoi ? D'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant et de là incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Ce n'est que par les mérites de Jésus que nos transgressions peuvent être pardonnées. Ceux qui ne sentent aucun besoin du sang de Christ et qui pensent s'assurer l'approbation divine par leurs bonnes œuvres commettent la même erreur que Caïn. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Il n'existe aucun autre moyen pour eux d'être délivrés de l'esclavage du péché. Donc c'est... Voilà, frères et sœurs, ici, le réflexe, c'est de lire cela pour ces pécheurs là-bas. Ces pécheurs, tous ces pécheurs là. Qui n'accepte pas mon Jésus. Non. Ce n'est pas pour ça que ça a été écrit. Non. Parce que ceux qui n'acceptent pas Jésus, ces paroles n'ont aucun poids pour eux. Parce qu'ils ne croient pas que Ellen G. White était la servante du Seigneur. Donc ça ne peut pas être pour eux. Vous comprenez? Donc ces paroles, elles sont pour nous. Elles sont pour moi. Et qu'est-ce que je peux retirer de ces paroles dans ce cas? Il faut que je sente mon besoin de Christ et que je ne cherche pas à m'assurer l'approbation de Dieu par mes propres bonnes œuvres. Que je comprenne que quand je viens à Dieu, si je veux lui être agréable, il faut que j'admette que je vienne avec cet élément essentiel en avouant mon besoin sérieux et constant du Rédempteur. En admettant, en confessant mon besoin sérieux de Jésus à chaque instant, à chaque prière, pour être accepté auprès de Dieu. Et à ce moment-là, si j'accepte le sang purificateur, si j'accepte la purification par laquelle Dieu veut me faire passer en ces derniers jours, eh bien, je ne serai plus sous la condamnation, vous voyez ? Je serai délivré de cet esprit de Caïn. Parce qu'il n'existe, comme c'est écrit, aucun autre moyen pour eux d'être délivrés de l'esclavage du péché. Ça s'applique à moi et ça s'applique à toutes les autres personnes. Pas à toutes les autres personnes et à moi. C'est du centre vers l'extérieur. Ça ne peut fonctionner vraiment que comme ça. Et ce n'est que comme ça que cela fonctionne. Et je poursuis. Au verset 16. Donc on a lu que Dieu a promis à Caïn qu'il mettrait un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Parce que Caïn avait dit, maintenant c'est un gros problème. Parce que les gens ils vont dire, c'est toi le premier meurtrier, mais tu mérites. Tu mérites maintenant qu'il t'arrive ce que tu as fait. Hein? Un œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que Jésus, il avait dit et rapporté. Vous avez entendu quand l'on a dit œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus, il a dit, ce n'est pas ça la loi de mon royaume. Et donc Dieu, il disait, ce n'est pas ça la loi de mon royaume. Donc je dirais, si quelqu'un est tenté de te faire ce que tu as fait à Abel, je mettrai une marque sur toi, un signe sur toi, afin que quiconque te trouvera, ne te tue à point. Vous voyez l'amour de Dieu ? Amour de Dieu, même pour Caïn, même pour cet esprit, même pour cet esprit. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire ? Tellement de choses. Ça renferme pour nous que Jésus a dit, pardonnez à ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus l'a dit, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, dans mon royaume de l'amour de Dieu. Et donc, on lit la suite, verset 16. Alors, Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils. Ce n'est pas l'autre Enoch qui marchait avec Dieu, non. Ce n'est pas le même, là. Pas du tout. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ce premier homme à avoir tué, qu'est-ce qu'il fit? Après que Caïn sortit de devant l'Éternel et qu'il habita au pays de Nod, il construisit une ville. Et donc, le premier meurtrier fut le premier à fonder une ville. Le fondateur de la première ville, c'était Caïn. Et ça fait partie de notre message, de notre méditation aujourd'hui, de ce que je voudrais que l'on puisse prendre avec nous de cette méditation. C'est que le premier meurtrier fut celui qui fonda la première ville. Je lis ici dans le livre Patriarches et Prophètes, encore une fois, à la page 58, et au paragraphe 2. Après sa malédiction, Caïn s'éloigna du voisinage de son père et se voua d'abord à la culture du sol. Plus tard, il fonda une ville à laquelle il donna le nom de son fils aîné. Il s'éloigna de la face de l'Éternel, tournant le dos à la promesse de l'Éden restauré, pour rechercher les biens et les plaisirs d'une terre sous la malédiction du péché. Il devint ainsi le chef de file de la très nombreuse classe de ceux qui adorent le Dieu de ce monde. Ses descendants célèbrent par leur contribution au progrès des arts et des métiers, étaient dénués de piété et opposés au plan de Dieu pour l'humanité. Voilà ce que l'esprit de Caïn a produit, a entraîné. Ses descendants, célèbres par leur contribution au progrès des arts et des métiers, étaient quoi? Après toute cette progéniture, toute cet héritage qu'il leur a confié à travers le sang et à travers ses instructions, ils étaient dénués de piété et opposés au plan de Dieu pour l'humanité. J'aimerais aussi lire cette description qui continue, ou plutôt, je vais lire le contraste. Et c'était quoi? Quel était le contraste? Lui, ça c'était ce qui était arrivé à Caïn et à ses descendants. Et maintenant, nous lisons Abel, lui, s'était consacré à la vie pastorale, vivant sous des tentes ou sous des abris de feuillage. Les descendants de Seth, l'autre fils d'Adam, qu'il a eu avec Ève pour remplacer Caïn, les descendants de Seth suivirent la même vocation, faisant profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre, attendant une patrie meilleure, la patrie céleste. Hébreux chapitre 11, versets 13 et 16. Et maintenant, en rapport avec cette première ville que fonda Caïn, j'aimerais aborder ce sujet de ce qui a été commencé à cette époque et qui s'est poursuivi depuis ce moment-là, depuis cette première ville, et ce qui se passe dans les villes, à la différence de ce qui se passe dans les champs, dans la campagne, dans les milieux ruraux. Je lis ici dans Le foyer chrétien à la page 129 et au paragraphe 1. La vie citadine est anormale et artificielle. La passion intense du gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et l'extravagance sont autant de forces qui, chez les grandes masses de l'humanité, détournent l'esprit du véritable but de la vie. La vie dans les villes, la vie citadine. Voilà ce que la vie citadine fait. Elle est artificielle et la passion intense, ou comme c'est écrit, l'âpreté du gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et l'extravagance sont autant de forces qui détournent l'esprit du véritable but de la vie. Ah. Et moi, je peux vraiment témoigner de cette réalité parce que j'ai grandi dans le centre vraiment le centre de Paris. Et j'avais l'habitude, quand j'allais séjourner chez ma grand-mère, j'avais l'habitude avec mon frère de dire c'est trop rustique ici, c'est trop rustique. Et ce n'était même pas la campagne, c'était vraiment, c'était juste la périphérie de la ville, quoi, d'une ville du sud. C'était, mais déjà ça, c'était trop bizarre, quoi, parce que la vie citadine a une emprise sur les esprits. Je continue. La vie citadine, toutes ses forces, la passion intense du gain, le tourbillon des plaisirs et des jouissances, la soif du luxe et l'extravagance, sont des forces qui détournent l'esprit du véritable but de la vie. Elles ouvrent la porte à des maux sans nombre. Toutes ces forces qui sont régissantes dans la vie citadine, elles ouvrent la porte à des maux sans nombre. Des maux sans nombre. Vous ne pouvez pas les nombrer, il y en a tellement. Toute cette abondance, cette multiplicité de maux qui sont générés et qui sont nourris par la vie dans la ville. Sur la jeunesse, elles ont un pouvoir presque irrésistible. Presque irrésistible. C'est-à-dire que, sauf si vous êtes surhumain, vous ne pouvez pas résister à l'influence que génèrent toutes ces forces agissantes dans la vie citadine, qu'elles génèrent et qu'elles ont sur vous quand vous êtes jeune. Moi, je sais parce que j'ai grandi à Paris et vous ne connaissez rien d'autre. Donc, comment est-ce que vous pouvez résister à ce qui n'est pas, au premier abord, qui ne semble pas mal, mis à part les messages de votre conscience. Mais ça, c'est quelque chose qui devient très très trouble au fur et à mesure qu'ils sont mélangés à toutes ces influences néfastes qui existent dans les villes. Et donc, sur la jeunesse, ces forces ont un pouvoir presque irrésistible. Comment y résister ? L'une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des villes, c'est l'amour des plaisirs. C'est l'amour des plaisirs parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre plaisir que les plaisirs du monde dans la ville. Parce que c'est un environnement artificiel et anormal. Et donc, pour subvenir, entre guillemets, pour soutenir, encourager la vie, il n'y a que les plaisirs mondains qui peuvent faire cela dans la ville. Et donc, ça devient l'une des tentations les plus subtiles et les plus dangereuses qui assaillent les enfants et la jeunesse des villes, l'amour des plaisirs. Les jours de vacances, les sports et les jeux dont le nombre va sans cesse croissant, les détournent des humbles devoirs de la vie. Les humbles devoirs de la vie, c'est une étrangeté à la jeunesse qui grandit, qui est élevée et qui est éduquée par les villes. Elle n'est pas éduquée par les parents, par la sagesse, par le bon sens. Elle est éduquée par ces forces qui régissent dans les villes. Et donc, les humbles devoirs de la vie sont un élément inconnu parce que ces humbles devoirs, ils sont si pâles par rapport à toutes ces promesses de gains, d'excitation, de plaisir, de réjouissance, de luxe et d'extravagance. Vous voyez, quand ces choses sont mises les unes à côté, ils font pâle figure, ces humbles devoirs. Et donc, ils sont ignorés, ils sont négligés. Et donc, les jeunes grandissent pour vivre avec en vue une vie qui est vécue dans le but de satisfaire ses plaisirs et ses désirs charnels. L'argent qui aurait dû être épargné pour un meilleur usage est ainsi gaspillé en amusement. Je pourrais même témoigner de cela, mais je ne veux pas le faire parce que les sommes sont si grandes à cause de tous ces maux qui sont sans nombre dans la ville et qui ont une influence presque irrésistible, notamment sur les enfants et la jeunesse. Je continue, une autre déclaration qui nous aide à nous faire une idée correcte de ce qu'est vraiment la vie dans les villes. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, frères et sœurs, et que vous dites, je suis pas vraiment dans la ville, c'est pas vraiment la ville, c'est la banlieue, ou c'est la périphérie de la ville. Si vous avez des lotissements, c'est la ville. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Si vous avez des lotissements, ce n'est pas la campagne. Je continue. Dans le foyer chrétien, à la page 129 et au paragraphe 2 et 3, je lis ceci. Les conditions physiques dans les villes sont souvent un danger pour la santé. Le contact toujours possible avec la maladie, l'air vicié, l'eau impure, les aliments malsains, les logements sombres, insalubres et exigus sont quelques-uns des maux nombreux qu'on y rencontre. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Ce n'est pas là son plan originel. Que les hommes s'entassent dans les villes. Ce n'est pas comme cela qu'il avait prévu l'existence de l'homme. Mais vous vous rappellerez que Caïn, s'étant détourné de la présence de l'Éternel, est allé fonder une ville. Donc, le fondement même de la première ville était en conséquence de s'être détourné de la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que cela fait pour les personnes qui y sont, c'est que cela détourne l'esprit du but originel de la vie, à savoir être mis en harmonie, être réconcilié avec Dieu. Et c'est cet esprit de Caïn qui empêche, qui décide de ne pas avoir cela et qui ensuite va fonder une existence qui est séparée de cette possibilité. Parce que, comme nous avons lu, ses descendants célèbrent par tout leur progrès dans les arts et dans toutes les industries, eh bien, ils étaient rebelles au plan de Dieu pour l'humanité. Ils n'acceptaient pas cela. Et c'est la même chose aujourd'hui dans les villes. Je continue. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Il plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres, ou littéralement au milieu des magnifiques sons et paysages. Au milieu des magnifiques sons et paysages dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous approcherons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit et de l'âme. Donc, ça fait beaucoup de choses pour arriver à ça, mais généralement c'est souvent le cas que lorsque l'on veut passer un message, si nous voulons vraiment le communiquer clairement et justement, et dans toute sa de manière complète, il faut traverser toutes les étapes que la parole de Dieu nous présente. Et moi je peux témoigner de ce que lorsque nous approchons du plan originel de Dieu, nous obtenons la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous savez, quand il y a toutes ces informations démoralisantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, et toutes les tentations et les échecs personnels, des fois, la seule réponse pour moi, des fois, c'est très lié à l'étude de la parole et la prière, mais quand je me suis laissé emporter, je revais dans la nature. Et c'est pour ça que le fait de vivre dans la campagne, c'est une nécessité absolue, comme nous allons le voir après. Donc moi, je vais dans la campagne, ce qui est juste à quelques pas, quoi. C'est le jardin, en fait. Et je m'allonge là sur l'herbe quand il fait beau, quand il fait pas trop mouillé. Ça a une influence sur notre âme, notre esprit et notre corps, qui est celle qui était prévue dans le plan originel de Dieu. Et dans son plan de la rédemption, ceci est contenu dedans pour, à travers la nature, être mis en connexion directe avec le Dieu de la nature. Non pas que la nature est Dieu, mais Dieu nous communique à travers les œuvres de ses mains, à travers sa création. Et donc, si vous écoutez attentivement, vous écoutez les oiseaux chanter, vous écoutez le vent souffler, vous ressentez le soleil briller, et toutes les choses que vous ne pouvez pas expliquer ont un effet subtil sur vous, et en même temps, l'Esprit de Dieu vous rappelle les versets de la parole de Dieu qui sont directement applicables à votre situation. Et tout cela, lorsque nous nous y soumettons et que nous recevons cela avec l'esprit d'Abel, eh bien, nous sommes amenés proches de Dieu. Jésus devient plus réel pour nous à travers cette communion avec la nature. Donc, je poursuis. Donc maintenant, on veut voir le besoin pour nous de sortir des villes. Et donc je répète, si vous n'êtes pas trop certain de vivre dans la ville, c'est que vous y êtes. C'est important. Vivre en campagne, ce n'est pas un moyen de salut. Ce n'est pas le salut par les œuvres, mais cela fait partie du plan de Dieu pour notre salut. Et donc, je lis ici, pour ne pas ajouter trop de mes propres paroles, je vous lis dans le foyer chrétien à la page 134 et au paragraphe 4. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que notre peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne, où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Deux points. Sortez des villes pour vous établir dans les régions rurales, où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Voilà l'instruction du Seigneur pour nous en ces derniers jours. D'ailleurs, ça a été écrit et déjà à l'époque, en début des années 1900, elle disait c'est maintenant le temps. Il est temps maintenant pour notre peuple de sortir des villes et d'aller s'établir dans la campagne. Ou comme c'est écrit ici, dans les régions rurales, non pas citadines. Nous avons besoin de ça, et notamment elle dit, où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres, et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Il y a plusieurs aspects ici qui rentrent en ligne, c'est-à-dire que c'est pour notre relation avec Dieu. Il y a aussi le fait que les villes sont un centre d'iniquité si abondant et que cela va devenir encore plus dangereux pendant les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et notamment pendant la crise des lois du dimanche. Donc maintenant, c'était déjà un impératif au début des années 1900, mais maintenant, il faut courir, quoi. Vous comprenez ? Courir, se hâter, tout en ayant foi en Dieu, en écoutant sa voix et en lui demandant de nous guider. Moi, je sais que au début, le Seigneur, il m'a déménagé, pour ainsi dire, c'était pour des études. Donc, c'était dans un endroit, pas vraiment de la campagne, mais c'était proche quand même. Parce que c'était la transition aurait été trop abrupte pour moi. Directement du centre peuplé de Paris jusqu'à la pleine campagne, j'aurais pas pu. Mais il m'a mis là jusqu'à ce que je revienne aux besoins, au sentiment que je réalisais mon besoin d'être dans la vraie campagne. Et là, j'ai prié le Seigneur, je me disais, ça va jamais être possible, Seigneur. Il faut ça, il faut que j'ai ça pour que ce soit faisable. Et je priais, Seigneur, il faut que j'ai ça pour que ça soit fait. Sinon, c'est pas possible. Et le Seigneur, en son temps, et je n'y croyais même pas vraiment, mais je savais que c'était nécessaire. Et vu que je savais que la volonté de Dieu, c'était que j'habite en campagne, comme je viens de le lire ici, eh bien, ça s'est produit. Et une chose après l'autre, tac, 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 tac. Toutes les choses dont j'avais besoin, elles sont venues en ordre, se mettre en file pour permettre que je puisse vivre dans une région rurale. Et donc, ce qu'il a fait, notamment pour moi, c'est ce qu'il a pour dessein de faire pour chacun de son peuple. Et plus particulièrement maintenant que la vie citadine va devenir si dangereuse. Si dangereuse. Ça ne veut pas dire que si nous sommes en ville, nous sommes condamnés. Ça veut dire que si nous sommes en ville, ou dans un endroit où les maisons sont trop rapprochées les unes des autres, eh bien, le Seigneur veut nous éduquer, et le Seigneur veut nous guider, et le Seigneur veut nous accompagner. Et donc, quelques mouvements que nous fassions, nous le ferons avec notre main dans la sienne. Et il n'y a que comme ça que cela fonctionne vraiment, parce que vous allez en campagne, non pas pour vous cacher du monde, mais pour vous rapprocher de Dieu. Donc, où que nous soyons, l'important, c'est que nous nous rapprochions de Dieu et que nous le laissions nous guider jusqu'à un endroit où nous puissions être mis dans des circonstances qui vont favoriser notre santé d'esprit et de corps. Voilà l'appel. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Et oui, parce que comme nous avons lu, il n'y a que deux esprits dans ce monde. Et si vous êtes mu de l'esprit d'Abel, deux catégories d'individus, pardon, et si vous êtes parmi cette catégorie d'individus qui est mue de l'esprit d'Abel, eh bien, ceux qui sont mus de l'esprit de Caïn deviendront dangereux pour vous. Et donc, tout en saisissant la main puissante de Dieu, nous voulons suivre ses conseils. Le Seigneur peut nous sauver de toutes circonstances. Mais pour notre croissance et pour notre santé spirituelle et morale et physique, nous avons besoin, en harmonie avec ses conseils, de vivre à la campagne. Tout n'est pas super magnifique dans la campagne, mais ce n'est pas la ville. Vous voyez, il y a des ronces aussi dans la campagne, il y a beaucoup d'herbes. Mais même si la terre a été maudite par le péché, nous pouvons encore y discerner la création de Dieu. parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle illumine les choses que nous n'arrivons pas à comprendre dans la création de Dieu. Et donc, lisons pour terminer le passage de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 17. En commençant par le verset 14, et après on va sauter au verset 17. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Verset 17. Ou plutôt verset 16. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur et je vous recevrai. Et je serai votre père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, puissions-nous nous saisir de cette promesse et nous conformer à cet appel à l'obéissance de Dieu, tout en nous souvenant que lorsque Dieu nous dit « Sortez du milieu de Babylone, mon peuple », aller en campagne, c'est aussi mettre derrière nous Babylone. Et si nous sommes en campagne, c'est aussi possible d'avoir gardé Babylone avec nous. Donc à chaque instant, Dieu nous dit « Sortez du milieu d'eux » et « Sortez de cet esprit de Caïn ». Sortez-en physiquement, mais principalement et par-dessus tout, sortez-en spirituellement. Que je puisse venir à Dieu en acceptant, en avouant, en lui avouant mon besoin de Jésus à chaque instant, à chaque prière, à chaque moment et à chaque heure. Parce que sans Jésus, mes mérites, ils ne sont pas suffisants. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ça aura été pour vous une bénédiction et que l'on puisse être illuminé par ces conseils. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.